Bonjour à toutes et tous, plus que quelques heures avant de célébrer le réveillon de Noël. Se retrouver en famille et manger de délicieux plats préparés avec amour, c'est en tout cas tout le mal que je vous souhaite. Pour clôturer en beauté ma série d'émissions sur les films et dessins animés de Noël, je tenais à ce que les deux chefs-d'œuvre qui arrivent figurent dans ma liste, Love Actually et L'Âge de Glace. Je vous vois venir, chefs-d'œuvre, n'est-ce pas un peu trop pompeux ? Peut-être, mais pour moi, ils le sont. Commençons avec les histoires du célèbre film de Richard Curtis, sorti le 3 décembre 2003 en France. Dans ce film, le casting est juste complètement dingue, avec Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Keira Knightley, Bill Nighy, Laura Linney, Emma Thompson, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. On peut voir aussi la présence de Rowan Atkinson, aka Mr. Bean, Claudia Schiffer ou encore Elton John. Leur point commun, ils sont tous joués dans des films de renommée internationale et surtout, ils sont tous britanniques. Je vous plante le décor, nous sommes à 5 semaines de Noël à Londres, nous faisons la connaissance de divers personnages et donc de diverses histoires qui n'ont rien à voir entre elles ou presque. On a un couple marié depuis longtemps qui tente de recoller les morceaux, un autre couple fraîchement marié dont l'ami est amoureux de la dame, un jeune garçon qui s'éprend d'une camarade de classe, un premier ministre sous le charme d'une collaboratrice, un rocker qui lance des paris fous, des acteurs porno un peu timides. Vous l'avez compris, il y en a pour tous les goûts dans Love Actually. En tout, c'est 9 histoires indépendantes, mais qui ont toutes un lien, soit par leurs personnages, soit par les lieux. Décryptons les coulisses de cette comédie romantique anglaise comme on les aime. Tout d'abord, il faut savoir que c'est le premier projet de Richard Curtis en tant que réalisateur, habitué au banc des scénaristes avec Mr. Bean, Le journal de Bridget Jones, Coup de foudre à Notting Hill et 4 mariages et un enterrement, du très 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 lourd en somme. Je vous parlais de caméo la dernière fois, Richard a souhaité faire une apparition dans son propre film où il joue un musicien spécialisé dans le trombone. Ses enfants aussi d'ailleurs feront une apparition dans le film, son garçon déguisé en Spider-Man et sa fille en homard, ainsi que la mère de sa femme, qui n'est autre que la femme de ménage du 10 Downing Street, la demeure du Premier ministre. Avec plus de 246 millions de dollars au box-office et près d'un million d'entrées seulement en France, Love Actually est un succès planétaire dès sa sortie. Concentrons-nous sur les anecdotes, on va pas se mentir, c'est ce qu'on préfère. Alors déjà, côté géographie, le réalisateur avait à cœur bien sûr de tourner la grande majorité des plans sur le sol anglais, mais une petite partie du film se passe à Marseille. C'est pour l'histoire qu'incarne Colin Firth que l'équipe s'est rendue quelques semaines dans la cité phocéenne. Richard Curtis lui-même avouera que cette expérience lui aura ouvert les yeux et qu'il avait commis une erreur en voulant uniquement tourner en Angleterre. Ce tournage est aussi l'occasion pour de nombreux acteurs de se retrouver sur un même plateau et ça se sent à l'image. Colin Firth, dont on parlait à l'instant, et un certain Hugh Grant, qui incarne le Premier ministre dans le film. À la base, le réalisateur travaillait sur 2 films distincts pour ces 2 personnages, mais à force de retoucher encore et encore le scénario, Richard Curtis décide de fusionner les 2 films pour en créer un hommage à une de ses œuvres fétiches, Magnolia, de Paul Thomas Anderson. Pour rester autour de l'histoire du Premier ministre anglais, Hugh Grant donne la réplique à l'actrice Martine McCutcheon. Curtis voulait tellement que ce soit elle et personne d'autre qu'il avait même nommé son personnage Martine avant qu'il ne devienne Nathalie. On reste du côté des acteurs avec la belle Keira Knightley, qui à l'époque du tournage n'avait que 18 ans et qui s'était fait connaître dans le monde entier quelques mois plus tôt auparavant avec son rôle dans le premier volet de la saga Pirates des Caraïbes. La jeune anglaise n'était pas la seule à faire partie des mineurs, ou presque, durant le tournage, car Thomas Brody Sangster était âgé seulement de 13 ans. Pour son rôle de petit amoureux transi, il dut apprendre à jouer de la batterie. Ça ne lui servira pas dans ses rôles suivants dans Nanny McPhee ou Le jeu de la dame, mais c'est toujours ça de gagner. Pour clôturer sur ce film, je vais vous parler de sa suite intitulée Red Nose Day Actually, littéralement le jour du nez rouge. Ce mini-film destiné au petit écran cette fois-ci fait le point sur chaque personnage du tome 1, mais 14 ans plus tard. Ce n'est pas l'histoire du court-métrage qui m'intéresse ici, mais le pourquoi il a été tourné. Richard Curtis tenait à faire une levée de fonds pour le Red Nose Day, l'équivalent de notre Téléthon français, et il permettra de récolter plus de 80 millions d'euros pour lutter contre la famine en Éthiopie. Sur ces mots purement solidaires, on marque une pause musicale avec la plus célèbre des chansons pop de Noël, mais non pas interprétée par la diva Maria Carey, mais par Olivia Olson, qui la chante en fin du film Love Actually. All I want for Christmas is you.
There's just one thing I need. I don't care about
Je sais que vous l'avez en tête pour toute la journée, ne me remerciez surtout pas, c'est cadeau. Promis, la musique qui clôturera réellement cet épisode est tout aussi bien, voire mieux même. Il vous tarde de savoir de quel dessin animé elle est tirée? C'est de L'Âge de Glace, bien entendu. Je ne pouvais pas ne pas en parler. Ce film d'animation est tout simplement un pur bonheur. On va se concentrer, si vous le voulez bien, sur le tome 1, car il y en a 4 en tout. Sorti en juin 2002 sur nos écrans géants et réalisé par Chris Wedge, on doit la création de Sid, Manny, Diego et surtout le célèbre Scrat au studio Blue Sky Studio. Vous vous rappelez? Le même qu'Anastasia avant de se faire acheter. C'est en 2000 que commence le travail pour les équipes qui racontent l'histoire d'un mammouth nommé Manny, un paresseux appelé Sid et un tigre à dents de sabre du nom de Diego qui se retrouve avec un bébé humain sur les bras. Il se lance alors une mission simple, le ramener à ses parents. Le tout se passe durant l'ère glaciaire, il y a 20 000 ans de ça. Au-delà de ça, l'idée naît en 1990 dans la tête de la productrice Laurie Fort. Après un premier échec en voulant travailler avec la 20th Century Fox Studio, qui ferme temporairement leurs portes après Titan, elle se tourne vers Christopher Melandri. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais il est le créateur d'Illumination Entertainment. Vous savez là, les créateurs des Mignons dans Moi, Moche et Méchant. Une fois toute l'équipe retrouvée, le travail attaque concrètement avec les personnages et fait amusant le petit écureuil nommé Scrat, qui est la coqueluche du film, a failli ne jamais être dans le film. Les réalisateurs misent tout sur cet écureuil maladroit en espérant qu'il puisse apporter un élargissement sur le comique du film. C'est d'ailleurs le réalisateur Chris Wedge qui lui prête sa voix et c'est un pari gagné. Côté technique, les choses se corsent, notamment pour l'animation du mammouth Manny, dont le dessin a été le plus complexe en raison du manque de représentation existante de l'animal et surtout de sa fourrure. L'équipe des animateurs avouera aussi avoir eu beaucoup de mal avec les scènes de vitesse du tigre Diego et les visages des êtres humains. Mais ils ne baissent pas les bras et ont recours à la bonne vieille méthode du crayonné ou de la terre glaise pour façonner leurs personnages avant de les animer en 3D. On n'y voit que du feu, bravo à vous. Les équipes ont pu bénéficier aussi de précieux conseils pour donner vie à nos animaux préhistoriques préférés grâce au paléontologue du Muséum d'Histoire Naturelle de New York, l'un des rares lieux à posséder des reliques de la période de l'ère glaciaire. Toute l'équipe de Chris Wedge avait élu domicile en son sein durant de nombreuses heures afin d'être les plus réalistes possibles. Passons à la musique qui, comme tout bon film, prend une place importante dans le rendu final. La tâche est confiée à David Newman. David Newman, pourquoi ce nom me dit quelque chose? Eh oui, c'est le même artiste que pour la bande originale d'Anastasia. Ses films sont bien plus liés qu'il n'y paraît au premier regard. En tout, c'est 14 chansons originales qui seront composées et 2 déjà existantes seront ajoutées au montage final, Sound Off, et celle qui va fermer notre 6e épisode, Send My On My Way, du groupe de country américain Rusted Root, sorti en 1994 sur le second album When I Walk. Petite dernière anecdote pour la route, avant de figurer sur les bandes de L'Âge de Glace, cette chanson fut utilisée pour les films Pie in the Sky en 95, Matilda en 96 et le sitcom La vie à 5. Merci à toutes et tous de m'avoir écouté, j'espère que cette série sur les films et dessins animés de Noël, d'hiver même, vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur les podcasts disponibles sur le www.radioallianceplus.fr. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année et surtout de vous dire joyeux Noël. Mobody say, mobody on. Well, pick me up with golden hand. Hombre, say, hombre, tell you to run. All the way, all the way. Mobody say, mobody on. Well, I would like to hold my little hand. How we will run with, how we will cry. Send me on my way.